VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du mardi 5 mai 2020. Eric Mandela Kiza à la présentation. Voici d'abord les titres. Deux soldats français de Barkhane tués en 4 jours au Sahel. Et dimanche, d'importants combats ont opposé l'armée nigérienne et des combattants islamistes de Boko Haram aux portes de Difa au Niger. Crash en Somalie d'un avion privé kényan transportant du matériel humanitaire. Au moins 6 morts. Au Tchad, la cour d'appel annule la condamnation d'un journaliste local accusé de diffamation par une ex-ministre. Le monde continue de compter ses morts causées par la pandémie du Covid-19. La maladie a tué plus de 252 000 personnes, dont 1840 en Afrique. Londres et Washington ont commencé les négociations sur un accord de libre-échange post-Brexit. En pleine pandémie de coronavirus, la Chine envoie un nouveau vaisseau dans l'espace. Également dans cette édition du Monde Aujourd'hui, l'économie et les sports, mais tout d'abord le journal. L'armée nigérienne affirme avoir repoussé dimanche une attaque de combattants de Boko Haram aux portes de Difa dans l'extrême sud-est du pays. Selon un résident de Difa, c'était une audacieuse tentative d'infiltration qui a été repoussée par les forces nigériennes vers le pont de Douchi, au-dessus de la rivière Komadougou, qui sépare le Niger et le Nigeria. En 2015, d'intenses combats avaient opposé l'armée nigérienne aux djihadistes autour de ce pont. L'attaque de dimanche intervient après une offensive terrestre et aérienne en avril de l'armée tchadienne qui a annoncé avoir chassé les djihadistes de son sol. N'Djamena a affirmé avoir tué 1000 djihadistes et perdu 52 hommes. Un militaire français de la force Barkhane a été tué lundi dans le Sahel. C'est la deuxième victime en 4 jours. Ces derniers mois, l'armée française a multiplié les offensives, en particulier dans la zone dite des trois frontières entre Mali, Niger et Burkina Faso. L'état-major français revendique la neutralisation de centaines de djihadistes depuis le début de l'année. Selon le commandant de la force française, l'épidémie de Covid-19 n'a pas d'impact sur les opérations de Barkhane, qui enregistre des progrès substantiels face au groupe État islamique au Grand Sahara. La cour d'appel de N'Djamena a annulé mardi la condamnation à 3 ans de prison de Martin Inoua Doulgué, directeur de publication de la revue Salam Info. Cet arrêt n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Il était poursuivi pour association de malfaiteurs informatiques, diffamation et injures à travers d'autres voies que celles de la presse. Après une plainte de l'ancienne ministre de la Santé, Toubta Boguena, l'avocat de Madame Boguena, Madame Amos Ahta, a dénoncé mardi une aberration judiciaire sans préciser quelle suite sa cliente allait donner à l'affaire. 6 personnes ont été tuées à bord d'un avion qui s'est écrasé lundi dans le sud de la Somalie. Cet avion cargo privé kényan transportait du matériel dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Le ministère kényan des Affaires étrangères a jugé peu clair les circonstances et demandé une enquête rapide à la Somalie. Le président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo a téléphoné à son homologue Uhuru Kenyatta pour lui faire part de ses regrets et exprimer ses condoléances. L'avion était opéré par African Express, dont le siège est à Nairobi. Plus de 1840 morts du coronavirus en Afrique, selon les derniers chiffres du Centre pour le contrôle des maladies de l'Union africaine. Le point avec Abdurrahman Dia.
La RDC compte plus de 700 cas, dont 34 décès et 90 guéris. Le gouvernement redoute une propagation à grande échelle après l'enregistrement d'une centaine de cas dans une prison militaire de Kinshasa. Le Sénégal a enregistré son 11e décès sur 1329 cas. Le pays déclare que 470 personnes sont guéries de la maladie. Le Mali a de son côté enregistré 32 nouveaux cas, portant à 612 le nombre de malades, dont une trentaine de morts. Ailleurs, le déconfinement progressif se poursuit avec prudence et inquiétude. Le Rwanda et le Nigeria ont commencé à lever certaines restrictions. Dans le Maghreb, Tunis et Alger ont commencé à assouplir les mesures de confinement en place depuis mars, mais les autorités mettent en garde contre un rebond de la pandémie.
Avec près de 3,6 millions de cas officiellement diagnostiqués et près de 252 000 morts dans le monde, la pandémie du nouveau coronavirus continue de se propager dans le monde. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Pour le troisième jour d'affilée, la Russie enregistre un nouveau bond de plus de 10 000 nouveaux cas en 24 heures. Beaucoup de pays sont pressés de sortir de la quarantaine. En Allemagne, le déconfinement s'accélère sous la pression des régions, malgré les consignes de prudence de la chancelière Angela Merkel. La Bavière, la plus grande région allemande, a dévoilé mardi son propre programme, réouverture des restaurants à partir du 25 mai, les hôtels et le tourisme le 30. Aux États-Unis, la Californie, premier État américain à avoir décrété le confinement, commence à alléger et les commerces devraient réouvrir à la fin de la semaine. Hong Kong a aussi annoncé un assouplissement des restrictions et va réouvrir les écoles, cinémas et bars à partir de vendredi. L'Inde prépare le rapatriement de ses ressortissants bloqués à l'étranger. Un navire est en route pour les Émirats arabes unis où vit une communauté indienne de quelque 3,3 millions de personnes.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Royaume-Uni et les États-Unis ont débuté leurs négociations en vue d'un accord de libre-échange post-Brexit. Le représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, et son homologue britannique, Liz Truss, ont tenu la première session de ces discussions par vidéoconférence. Nathalie Barge.
Nous voulons conclure un accord ambitieux qui ouvre de nouvelles opportunités pour nos entreprises, génère plus d'investissements et crée de meilleurs emplois, a déclaré la ministre britannique Liz Truss. Les échanges commerciaux entre les deux pays représentaient 220 milliards de livres l'an dernier. Les exportations vers les États-Unis comptaient pour près de 20% des exportations britanniques. L'objectif est d'augmenter les échanges de 15 milliards de livres. D'autres sessions de négociations suivront, notamment sur le commerce numérique, l'investissement et le soutien aux petites et moyennes entreprises. Le Royaume-Uni espère également conclure un accord de libre-échange avec l'Union européenne cette année, mais les discussions piétinent et le chef de la diplomatie irlandaise, Simon Coveney, s'est alarmé du manque de progrès.
Le Parlement israélien a entamé mardi un débat marathon sur l'accord de gouvernement conclu entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ex-rival électoral Benny Gantz, dont la légalité a été contestée jusque devant la Cour suprême. Les parlementaires ont jusqu'à jeudi soir pour entériner cet accord destiné à mettre fin à la plus longue crise politique de l'histoire d'Israël. L'accord prévoit que M. Netanyahou soit reconduit à son poste pendant les 18 premiers mois avant que M. Gantz devienne à son tour Premier ministre pour une période équivalente. 14 des combattants iraniens et membres de milices alliées à ses forces ont été tués dans des frappes nocturnes sur la province de Deizor, dans le nord-est de la Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les raids aériens auraient été menés dans la nuit par des avions de chasse israéliens. En pleine pandémie du Covid-19, la Chine a lancé ce mardi un nouveau vaisseau spatial. C'est une étape cruciale vers une future grande station spatiale chinoise sur le modèle de la station spatiale internationale et peut-être des vols vers la Lune. Les précisions de John Lyndon.
Selon l'agence de presse Chine Nouvelle, l'engin a été propulsé depuis la base de Wenchang sur l'île de Hainan dans le sud du pays. Par sécurité, il n'y a personne à bord du vaisseau en raison de son caractère expérimental. Sa principale utilité, acheminer des astronautes vers la future station spatiale et réaliser des vols habités vers la Lune. Pékin a déjà lancé depuis 1999 plusieurs véhicules spatiaux Shenzhou construits sur le modèle des fameux Soyouz russes. Le faisceau lancé mardi est plus rapide, plus résistant à la chaleur. L'engin pourra également transporter davantage d'astronautes jusqu'à 6 au lieu de 3 jusqu'ici et devrait être partiellement réutilisable. Aller loin dans l'espace nécessite deux choses, une grande vitesse et une meilleure protection face aux températures extrêmes. Ainsi, cette mission d'essai testera son bouclier thermique et sa capacité à rentrer dans l'atmosphère. L'assemblage de la future station spatiale chinoise, appelée en mandarin Tiangong, c'est-à-dire le palais céleste, doit débuter cette année et s'achever en 2022.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eki Abadou.
Au Sénégal, la pandémie de coronavirus pourrait entraîner la mévente de 30 000 tonnes d'anarcade et un manque à gagner estimé à 50 milliards de francs CFA aux dépens des producteurs de noix de cajou des trois régions de la Casamance dans le sud du pays, a déclaré l'ingénieur agronome Abdourahmane Faye. La morosité de la filière anarcade va affecter le port de Zinganchor. Les services portuaires prévoient une baisse importante de leur chiffre d'affaires à cause de la mévente des récoltes d'anarcade. Air Burkina fonde ses espoirs sur l'arrivée dans son capital d'un opérateur privé américain pour renouer avec des activités plus rentables. Contrairement à Air Mauritius passé sous administration volontaire ou encore à South African Airlines qui s'achemine vers la liquidation, Air Burkina veut se donner les moyens de traverser cette zone de turbulence. Pour le moment, nous n'allons pas vers un dépôt de bilan. La compagnie est toujours en mesure de supporter les charges jusqu'à la fin de la crise, explique Blaise Sanou, son directeur général. Des charges fixes qui représentent en frais de location mensuels plus de $535 000 pour les trois avions qui constituent sa flotte. La compagnie a également sollicité une aide de l'État.
Et sans transition, nous passons à la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. C'est aujourd'hui la date butoir donnée par la CAF à ses associations membres pour décider de la reprise ou de l'arrêt définitif de leur compétition. Le verdict est tombé au Mali. Le championnat national des Ligues 1 2019-2020 va se poursuivre jusqu'à son terme dès que la situation sanitaire du pays le permettra, conformément aux consignes des autorités publiques. Ainsi en a décidé le comité d'urgence de la Fédération malienne de football. Les précisions avec Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
C'est un télégramme destiné aux ligues régionales et clubs concernés qui annonce la décision. Elle a été prise le lundi 4 mai 2020 lors de la réunion du comité d'urgence de la Fédération malienne de football. La décision ne concerne pas que la reprise du championnat national Ligue 1 de football saison 2019-2020. Les éliminatoires de la Coupe du Mali saison 2019-2020 sont également concernés. Cela suite à une lettre de la CAF demandant à la FEMAFOOT la planification de ses compétitions de la saison en cours. Selon toujours le dit télégramme signé par le secrétaire général de la Fédération malienne de football, Ibrahima Sangaré, il est demandé à toutes les ligues de faire parvenir à la FEMAFOOT les points de leur championnat de deuxième division et d'indiquer comment elles comptent les achever. Pour rappel, toutes les compétitions de football au Mali ont été suspendues il y a presque un mois et demi à cause de la maladie à coronavirus. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
Hier, le Burkina Faso a lui annulé son championnat de première division 2019-2020. La saison a été stoppée à la 24e journée pour d'abord permettre à l'équipe nationale des locaux de préparer le CHAN, puis à cause du Covid-19. Les résultats de la saison précédente font office de résultats pour cette année. Il n'y aura pas de relégation cette saison. En plus donc des 16 équipes de D1, les champions de la D2, les Léopards de Saint-Camille et Vitesse FC rejoindront la première division la saison prochaine. La Guinée, l'Angola et le Kenya ont aussi annoncé que leurs championnats ne reprendront pas. En Europe, l'attaquant ivoirien du Hertha Berlin, Salomon Kalou, a été suspendu par son club pour avoir violé les règles de distanciation sociale imposées pour lutter contre la propagation du coronavirus. Salomon Kalou a posté sur Facebook une vidéo le montrant en train de serrer les mains de ses coéquipiers et des employés du club dans les vestiaires du stade. L'international ivoirien de 34 ans s'est excusé pour son comportement, affirmant qu'il est pourtant bien placé pour mesurer l'importance des mesures barrières en raison de son implication dans des projets sanitaires dans son pays d'origine.
Merci Yacouba.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakiza toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. La lutte contre la pandémie du Covid-19 requiert le respect des règles d'hygiène. L'eau est essentielle. Le geste de précaution recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à Libreville, au Gabon, le gouvernement a initié une opération de distribution d'eau dans des quartiers qui subissent des pénuries. Le constat de notre correspondant Ismaël Obiang Nze.
Je suis avancé également. Mettez-vous au milieu.
Un agent des forces de l'ordre discipline les usagers qui se bousculent autour du camion de livraison d'eau au quartier Zahir. Ce secteur du 6e arrondissement de Libreville bénéficie pourtant des installations d'eau, mais qui ne sont pas encore opérationnelles, selon Jean Moussavou, l'un de ses milliers d'habitants.
On est censé avoir de l'eau, on a des compteurs quelque part en bas là, mais ça ne coule jamais. Donc c'est rare de leur voir venir nous fournir de l'eau, comme ce matin.
Plus de 20 quartiers de la capitale gabonaise sont concernés par cette opération de distribution d'eau potable. Les camions spécialement équipés de cubiténaires d'une capacité de 20 mètres cubes effectuent des rotations dans les zones identifiées. Cette ration est insignifiante pour la jeune Nathalie Massala.
J'aurais été satisfaite si l'eau coulait dans ma maison.
Cette navette se fait entre 7h30 du matin et 17h30 de l'après-midi. Elle permet néanmoins de soulager plusieurs ménages. Guy Patrick Olomon habite le quartier Milonsi.
Depuis le confinement, moi personnellement je n'achète plus l'eau. Et la voiture ici, ça arrive au quartier là deux jours. Donc ça apporte quand même des solutions aux besoins des nombreuses familles qu'on a ici.
Dans cette volonté du gouvernement gabonais d'aider les familles, les grands oubliés de cette générosité semblent bien être les personnes handicapées des logements sociaux d'Atteville. Julien Niaré raconte son calvaire.
C'est vrai que nous avons un compteur d'eau, mais on n'a pas souvent de l'eau, on fait parfois 3-4 jours sans eau. Et on a dû s'adapter, comme je disais, donc lorsque l'eau arrive, nous faisons des réserves. Donc on a acheté des bidons, vous voyez là. Ici là, vous avez des bidons qui sont alignés là avec des bouteilles. Donc on fait des réserves comme ça, ce qui nous permet de tenir au moins 1 à 2 jours.
D'après les sources officielles, la demande en eau à Libreville se situe autour de 300 000 mètres cubes par jour pour une offre de 230 000 mètres cubes. La Société d'énergie et d'eau du Gabon accuse un déficit structurel de ses capacités de production. Libreville, Ismaël Obiangze, VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Kenya effectue des tests gratuits de dépistage du Covid-19 dans les zones densément peuplées et à haut risque de Nairobi. Depuis vendredi, ces tests ont mis au jour des dizaines de nouveaux cas positifs. Mais le ministère de la Santé indique que le taux de participation est faible. Lundi, le Kenya a enregistré 25 nouveaux cas de coronavirus, portant le nombre total de cas confirmés à 490. Un reportage de Raël Ombouor à Nairobi, relaté par Nathalie Barche.
Le quartier populaire d'Islay à Nairobi, qui a enregistré plus de 50 cas d'infection Covid-19, est considéré comme une zone à haut risque par les autorités sanitaires. Martin Wekwaika, 25 ans, est l'un des résidents qui s'est porté volontaire pour être testé à un stand temporaire du ministère de la Santé qui a lancé vendredi une opération de dépistage de masse dans des zones ciblées.
Ce qui m'a convaincu, c'est l'information selon laquelle il y a eu des cas confirmés ici à Islay. Je suis allé me faire tester pour savoir si ça va. J'ai deux enfants à la maison et je suis toujours au travail à l'extérieur, donc il me fallait savoir si je vais bien.
Des dizaines de cas positifs ont également été confirmés au cours de la semaine écoulée dans le quartier populaire de Kawangwari. Connie Mwana, une résidente de ce quartier, avoue ne pas vouloir risquer d'exposer ses enfants à la quarantaine si elle était testée positive.
When you get to those quarantine facilities, the chances of contracting COVID-19...
Lorsque vous arrivez dans les établissements de quarantaine, les probabilités de contracter le COVID-19 sont élevées en raison de la façon dont les gens séjournent dans ces installations. Par exemple, l'assainissement n'est pas bon, les gens partagent les toilettes. Le fait d'emmener des gens par la force dans ces lieux de quarantaine fait peur aux gens.
Lors d'une conférence de presse dimanche, le docteur Rachid Aman, secrétaire administratif du ministère de la Santé, a déclaré que l'accessibilité aux tests est une opportunité à saisir.
The outcome of the testing exercise so far has shown a low turnout in some of these areas.
Il y a un faible taux de participation dans certains quartiers. En deux jours, les équipes ont testé 803 personnes contre un objectif de 2000 à Kawangware et 494 contre 3000 à Islay. Je tiens à rappeler qu'il y a des pays où les gens supplient d'être testés alors que leurs gouvernements ne sont pas en mesure de le faire. Le ministère de la Santé a acquis la capacité d'entreprendre des tests ciblés, mais la volonté des personnes est faible.
Ceux qui sont testés positifs sont placés en quarantaine pendant 2 semaines dans un établissement public. Le coût de la quarantaine est de $20 par jour, ce qui est supérieur au revenu quotidien de la plupart des habitants de ces quartiers populaires. Pour encourager plus de tests, le gouvernement a annoncé la prise en charge des frais pour les personnes les plus démunies.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le secteur de l'enseignement est obligé de s'adapter face au COVID-19. Après la fermeture des écoles pour éviter les rassemblements, plusieurs gouvernements ont lancé des programmes d'enseignement à distance, soit à la télévision, soit sur Internet. Mais ces programmes d'enseignement sont-ils adaptés en Afrique où l'accès pour tous aux nouvelles technologies pose problème? Comment faire pour éviter que l'année scolaire ne soit perdue? Faut-il développer l'enseignement à distance en Afrique? Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi 7 mai 2020 à 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
Les drones aident à diffuser des messages du ciel sur la manière de prévenir l'infection par le coronavirus dans les régions rurales éloignées et pauvres de la municipalité du Grand Zanin en Afrique du Sud. Les autorités locales ont été pionnières dans l'utilisation de ces engins volants en Afrique du Sud comme outil pour éduquer les gens sur le COVID-19 dans les langues locales. Ils permettent également la surveillance des points chauds potentiels. Maryse de Klerk rapporte de Johannesburg. Le récit est signé Arzuma Compaoré.
Le COVID-19 a changé beaucoup de choses en Afrique du Sud. Ici, dans la municipalité du Grand Zanin, dans la province septentrionale de Limpopo, la voix du maire vient d'un drone dans le ciel pour mettre en garde contre le virus mortel. Avec seulement 3 hôpitaux dans tout le district, des efforts importants de prévention sont nécessaires, a déclaré le maire Marie Pemangena. Nous pouvons accéder à tout le monde. Un drone, quand il vole, quand il plane au-dessus des communautés, il fascine, il intrigue les gens. Les gens veulent écouter, les gens veulent entendre quel est ce message en train d'être communiqué. Un fournisseur de services de drones agréés effectue la messagerie sur les points chauds essentiels de coronavirus sous la direction de la police sud-africaine et avec les conseils du comité COVID-19 de la municipalité. La municipalité du Grand Zanin était à l'origine la seule juridiction disposée à utiliser des drones d'une TISO Aviation Services, explique le directeur général de la société, Jack Shilubana. Ils ont l'impression que nous parlons de beaucoup d'argent que vous dépensez dans cet exercice. Et d'autres vont probablement demander, mais pourquoi vous ne fournissez pas de l'eau? Et c'est cet équilibre, vous savez, en termes de coût de la technologie et aussi la valeur dérivée d'un exercice comme celui-ci. Les drones sont bien adaptés à cet effet dans les zones rurales, en particulier en Afrique, car ils offrent davantage pour l'argent dépensé, explique le chef de la Fédération sud-africaine des systèmes volants télécommandés, Sam Twala. En Afrique, c'est là que les drones vont trouver une meilleure utilisation et rattraper d'autres régions du monde. Cela simplement en raison des défis particuliers que nous avons. Et quand on considère le coût, c'est en fait là que les drones ajoutent beaucoup plus de valeur car ils offrent l'avantage de positionner les individus de façon stratégique. Il semble que la diffusion du message sur la prévention du COVID-19 a été utile dans la région de Tsanine, explique un journaliste local. Je crois que cela a aidé et je crois que sans les drones diffusant ces messages à ces personnes dans les régions éloignées, elles n'auraient pas su. Jusque-là, un seul cas d'infection au COVID-19 a été signalé dans la municipalité du Grand Tsanine.
Ici aux États-Unis, le taux de chômage sans précédent dû au coronavirus crée une nouvelle pression sur les organisations caritatives de la Californie. Les demandes d'aide connaissent une forte augmentation et les banques alimentaires se battent pour relever le défi. Un reportage de Dina Mitchell dans le comté d'Alameda, le récit de Lionel Runanira Gahima.
30 millions d'Américains ont perdu leur emploi en 6 semaines. C'est presque du jamais vu. Et sans emploi, il est difficile de joindre les deux bouts. À Alameda, en Californie du Nord, la banque alimentaire du comté essaie de faire face à l'augmentation des demandes d'aide. Zoe Rountree supervise la distribution des vivres sous les sites d'urgence et détaille le menu qui est servi.
Des produits de base comme les pommes de terre, les oignons, les pommes et les poires, des trucs qu'ils peuvent manger, ce n'est pas seulement en boîte. Parfois nous fournissons même des produits laitiers, ce qui est une bonne chose, c'est une belle variété.
Michael Altfest est directeur de l'engagement communautaire de la Banque alimentaire du comté.
Habituellement, à l'ouverture, on compte entre 40 et 50 voitures qui nous attendent déjà devant les portes. Notre volume d'appels téléphoniques à l'aide d'urgence a fait un grand bond, culminant à 1000%, et nous recevons de 100 à 200 appels par jour. La moitié des gens qui nous contactent quotidiennement le font pour la première fois.
Les banques alimentaires subissent une grande pression et intensifient leurs efforts pour venir en aide aux nécessiteux. Le financement provient de dons publics et privés. Michael Altfest de la Banque alimentaire d'Alameda.
Nous avons distribué beaucoup plus de vivres. Rien que le mois dernier, c'était 20% de plus que l'ensemble de l'année précédente. Nous pouvons acheter plus de nourriture en vrac pour quelques centimes sur le dollar, si bien que même un petit don se traduit en beaucoup de nourriture.
En cette époque de coronavirus, avec tous les risques de contagion, comment se passe la distribution de la nourriture? Zoe Rountree explique.
C'est toujours sans contact. Les clients peuvent rester dans leur voiture, conversation minimale, des informations minimales sont prises. Nous faisons tout le travail. Nous plaçons littéralement la nourriture dans leur voiture et c'est rapide. Donc ils peuvent venir chercher à manger. Certes, ils doivent attendre un peu, mais ils reçoivent vraiment de la bonne bouffe, c'est sûr.
Autre témoignage, celui de Jesse Vasquez, des services communautaires et de distribution des vivres d'Arsola, une commune d'East Oakland, toujours dans le nord de la Californie.
Habituellement, nous ne servions que des familles à faible revenu à East Oakland. Maintenant, c'est à peu près tous les groupes démographiques, toutes les couches et catégories de personnes qui viennent ici.
Et ce n'est pas facile d'aller quémander à manger après avoir perdu son travail. Michael Altfest voit beaucoup de ces nouveaux chômeurs à Alameda.
Ça a été humiliant. Je parle à beaucoup de gens qui viennent ici pour la première fois. Des gens qui ont tout perdu ou qui ont été licenciés et qui ne savaient plus où donner la tête.
Au plan économique, le président Donald Trump a déjà averti que le pire est à venir. Il faut donc prévoir que ces longues files de désespérés continueront de s'allonger. Michael Altfest de la Banque alimentaire du comté d'Alameda ne cache pas son pessimisme.
Nous savons par les expériences passées qu'une fois que pareille chose arrive, il faudra des mois, voire des années pour que beaucoup de personnes affectées puissent se remettre debout.
Pour recevoir les dons de nourriture, il suffit simplement de se présenter au point de distribution. Il n'y a pas d'autre formalité. Et tant qu'il y aura de la vie, il y aura toujours de l'espoir.
Si c'est la fin de cette édition. La mise en onde de Lionel Emmanuel Abrima, Georges Delon Arsagno, Michel Joseph, Joselle Maurice. À la présentation, Eric Manilakis. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site bureauafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Excellente soirée à tous. Au revoir.